t'agaces. Si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, puis sommel, les vies grossiers au relais, le fournir im Sender, Judaïka. Und jetzt geht's los. S'rote l'embele ich horn in unserem Studio. Chaque jour n'est pas forcément un bon jour, mais il y a du bon dans chaque jour. Alors je vous dis tout simplement bonjour. Ce petit jour d'automne, je vous embarque sur le porte-bagage de mon vélo de fonction de direction, la Robertso, rue Beuclin. Au début de la rue, de cette mangeaille ou des victuailles, en alsacien on dit joliment « frescos ». Pourquoi on dit la frescos? Parce qu'il y a plein de magasins de nourriture l'un à côté de l'autre. Le boulanger, ensuite en face il y a l'excellent chocolatier les frères Henner, un peu plus loin le fishman, le caisseman, ensuite le boucher, un libraire la parenthèse, et au bout de, ce trottoir se trouve toujours garé là une magnifique Harley Davidson avec des sacoches, avec des franges comme de cow-boy. Hein, ça doit certainement être au caviste. Je vais faire une petite enquête. Je monte les petites marches. Je vois dans son échoppe, il y a plein de sacrées bouteilles partout. Je rencontre le caviste avec une grosse barbe et une moustache fleurie. Derrière son comptoir, on papote de vin, de moto, de doux et de rien. Je lui propose tout simplement une émission radio. Et bien sûr, il dit « oui, il va venir à la radio, on a plein de choses à se raconter ». Et le voilà, à l'instant, à côté de moi, devant cette forêt de micros. Bonjour Noël, comment tu gazouilles dans ton monde?
Ouais, très bien, content de te voir, content d'être là.
Bah, moi aussi, je suis content. Bah, dis donc, ta moustache, elle fleurit toujours autant. Hein.
Toujours autant. Hein.
Tu la peignes le matin avant de venir.
Ah oui, c'est
extraordinaire. Alors, tu as garé ta belle moto, là, à côté de la synagogue?
Ah oui, bien sûr, c'est le déplacement obligatoire.
Obligatoire. On va juste écouter un petit extrait de musique, tu vas écouter. T'as une vraie passion hein, de cette moto, mais on ira un petit peu plus tard sur ta moto faire un petit tour. Je crois que ce sont deux potes hein, en 1903 dans le Visconti qui ont créé cette marque, un Arthur Davidson et un William Harley, je crois.
C'est ça, hein,
ça,
oui, c'est
ça, ça
oui.
Parle, ça, tu connais
oui,
ça
oui, hein oui, un peu, oui.
Voilà. Bon, bah, écoute, on verra ça tout à l'heure, mais avant, je voudrais que tu me racontes un tout petit peu ce que tu as fait dans ta vie, parce que de cette nouvelle passion, de cette autre passion, tu en as fait aussi ton métier, c'est la bonne bouffe.
Oui, tout à fait. J'ai commencé bien sûr par école hôtelière, j'ai fait une formation par école hôtelière. Je suis, grâce à cette école hôtelière, j'ai dû faire bien sûr autrefois l'armée. On faisait encore l'armée en ce temps-là. Et donc j'ai eu la chance de le faire chez le 4e général de France, à Strasbourg, rue Brûlée, au palais du gouverneur.
Tu as travaillé pour un général alors?
Oui, c'était général de Lamby en 5 étoiles.
D'accord. Donc et qu'est-ce qu'il mangeait ce monsieur?
Ah, il était à la pointe du progrès déjà. Il était déjà végétalien.
Donc tout ce que tu faisais c'était...
Vas-y, et un peu de fromage blanc.
Waouh, c'est tout ce que tu trouvais à l'époque.
Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on était surtout là pour les apparats, pour tout ce qui est banquet. Vu qu'il recevait beaucoup, beaucoup de personnes, donc on était là surtout pour les banquets, pour les réceptions.
Mais ouais, on va aussi parler un petit peu de ta passion, le vin que tu vends dans ton échoppe. On va juste écouter un tout petit extrait de musique avec Thomas.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les...
Ça te parle ça la bouteille? T'en as plein dans ton magasin ?
Tout à fait, oui. Un tout petit, pas mal, oui. Plus de 1200 sortes de vins, ouais. Donc et, alcool, spiritueux.
Et en fait, d'où te vient cette passion pour le vin ? Parce que tu l'as étudié, tu as travaillé.
Alors avec... oui, j'ai étudié autrefois. On appelait ça pas encore sommellerie, mais on appelait ça cru des vins à l'école hôtelière. On faisait cru des vins.
Cru des vins.
C'est-à-dire c'est une approche du vin. Autrefois, c'était renseigné par M. Brunet, qui est quand même une grosse pointure et qui a sorti quand même 2-3 livres. Et c'est une personne qui nous a donné, enfin qui m'a donné la passion du vin. Mais alors avant ça, j'étais en restauration pure, vu que par rapport à l'armée, j'ai eu la chance d'être placé sur dans un restaurant assez un peu étoilé. Et grâce à cette personne, j'ai pu partir aux États-Unis. Et parce que je ne parlais pas l'anglais, et comme pour être chef dans la restauration, il faut au moins au minimum une langue, c'est ce qu'on nous demandait. Et donc j'ai pu partir à Orlando, à Disney, où j'ai fait...
Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
Donc j'ai travaillé donc chef de France, donc j'étais chef de rang, maître d'hôtel. Là-bas il n'y a pas de vrai sous-métier, mais donc on faisait les tâches, les commandes et le service tout simplement. On était 150 Français sur le site et on servait plus de 20 000 couverts jour.
Hein, wow, donc, énorme. Donc à Disney alors.
À Disney. Non, c'était
mais t'avais Mickey là-bas et tout.
Avec les grandes oreilles, oui. J'ai vu Disney, on le voyait tous les jours. Mais on était sur la partie Epcot, hein, c'est donc la partie gastronomie de Disney.
Parce que les Américains, ils aiment manger, ils savent apprécier la bonne nourriture.
Ah ben autrefois, on servait les soupapes de bœuf bourguignonne, qui était le fer de lance, et le croissant jambon fromage, le ham and cheese. Hein, donc,
ah ouais.
C'était principalement pour ça qu'on était là. Et ensuite, il y avait bien sûr des restaurants un peu huppés aussi en français, vu que ça appartenait à M. Bocuse, ce restaurant.
Ah oui.
Ça appartenait à Gaston Lenôtre.
À Disney,
oui, ce sont les trois investisseurs que Disney est venu chercher. Donc c'était Gaston Lenôtre, Roger Verger, qui est à Mougins, et puis M. Paul Bocuse.
Donc tu les as, les plus grands, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça s'appelait les chefs de France, ça s'appelle toujours les chefs de France. Et grâce à eux, on avait un pont pour partir en Amérique avec des papiers quand même très rapides. Hein, ça se faisait un mois et demi, deux mois maximum, et pour aller apprendre l'anglais.
L'anglais, maintenant, tu maîtrises ?
Un tout petit peu, mais il faut pratiquer encore.
Et l'alsacien, tu le parles aussi dans ton magasin ?
Toujours, il n'y a pas de souci.
C'est vrai, tu parles alsacien ?
Je le comprends.
Appicella. Voilà. Et en fait, c'est très curieux ce que tu me disais tout à l'heure. Ton général, il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années.
Oui.
Et il mangeait que du bibelskes avec des vasas.
Oui, bien sûr. Il n'arrivait plus à manger de viande suite à... qu'on avait discuté avec lui, différentes campagnes qu'il a fait. Donc voilà, boire de la viande, ça ne passait plus trop.
Ah oui,
voilà,
d'accord. C'est tout. Et il était sympa avec toi, ce général ?
Oui, c'était un monsieur très très sympa. C'était un monsieur très agréable. De toute façon, il avait sa partie, si vous voulez... de commandeur, mais entre parenthèses, mais pour nous, c'était un père de famille.
C'était quelqu'un qui...
Nous, on l'avait au quotidien, donc voilà, on était là pour le bien-être.
Hein, d'accord. C'est ça, voilà. Et donc, Vasa, People's Guest.
Voilà, c'est ça. Trois maîtres d'hôtel, trois cuisiniers.
Oh, t'as passé du bon temps, alors.
Ah oui, c'était dur, l'armée.
alors, c'est vrai que t'as quand même un métier qui t'a fait beaucoup voyager.
Oui, tout à fait. Donc, grâce à ça, aux États-Unis, je suis resté quand même un certain temps aux États-Unis, à faire un peu la côte est avec Boston, New York, voilà, wow. Entre autres, par exemple. Et ensuite, bien sûr, je suis rentré, on m'a fait rentrer pour aller m'occuper donc, d'un restaurant étoilé Michelin au Lavandou, qui appartenait à Lord Diamond. C'était donc l'importateur exclusif de la soie en Angleterre.
Ah ouais.
Et c'est un monsieur qui, justement, par soumise dans les années 80-85, pour un Anglais, avoir un restaurant étoilé sur la Côte d'Azur, c'était vraiment quelque chose de super.
Et il l'avait eu ? Il l'a eu ?
Oui, là, justement, il avait acheté ce restaurant au Vieux-Port. On était donc avec un chef de cuisine qui, lui, venait de chez Marc Menot, qui était déjà 3 étoiles Michelin aussi. Mm-hmm. Donc, c'était une sacrée équipe. Quoi. Donc... Et c'était un restaurant à l'année, et non pas un restaurant juste pour l'été.
Ah ouais,
ce qui était vraiment très, très agréable. Okay. Quoi.
D'accord, et tu gardais bons souvenirs de cet endroit,
du Lavandou ? Oui, je suis resté plus de 2 ans sur le Lavandou, justement, avec cette personne. Et puis, c'est une personne qui était là que 6 mois dans l'année. Qui est vraiment très agréable et qui nous apprenait beaucoup, beaucoup de choses.
Donc, tu as eu 6 mois de vacances, quoi.
Oui, 6 mois de vacances. Quoique, il téléphonait tous les jours, quand même, pour savoir où on en était. Mais...
Alors, tu avais une drôle de voiture de fonction, là, je crois, non ?
Non, ça, c'est après, ça.
C'était plus tard. Tu me raconteras ça tout à l'heure, ouais. Alors, il recevait aussi du beau monde, ce Lord ?
Oui, oui, il recevait, bien sûr, ce Lord. Parce que, voilà, il avait on avait une petite anecdote tout à Mandou, c'est que sa voiture, sa BMW 6, il avait, wow. Il s'était marqué sur sa voiture Maxi. Alors, c'était odieux, c'est Max One. Ah. Hein, mais tout le monde l'appelait Maxi arrive. Hein, donc, voilà, c'était une petite anecdote assez sympa assez sur cette sympa. Personne. Ouais. Mais sinon, c'était un monsieur très, très bien, très, très posé. Nous, voilà, il s'est... Il était pour son personnel, si vous voulez, il était très très agréable, il n'y avait aucun souci.
Donc pas, très bien. Pas des emmerdeurs, c'était des gens plutôt agréables à travailler.
Tout à fait. Oui, ouais. Il nous laissait travailler, il était toujours présent à tous les services. C'était un monsieur qui faisait surtout l'accueil, hein, qui savait très très bien accueillir, justement, à l'anglaise. Et toujours, toujours au top, vraiment très bien.
Et tu as vu le gratin défiler ?
Oui, bah, bien sûr. Il y avait tout ça avec Gaou Kabbena, tout ça, il y avait tous les grands... Grande personne, il y avait le club de cavaliers autrefois aussi qui était juste à côté. Lui, il avait la chance d'avoir sa maison à côté. Hein, donc, il prêtait sa piscine, voilà, les bateaux cigarettes, c'était les siens au club.
Wow.
Voilà, c'était ça. Vraiment très, très sympathique, une belle période. Oui.
Bah oui, j'imagine. Mais écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles. Tu m'avais parlé de Led Zeppelin, que tu aimes beaucoup.
Ouais,
on va écouter un petit extrait d'un morceau très connu aussi. Ça se démonte jamais, ça, Led Zeppelin. Hein.
Ah non, c'est encore d'époque. Hein,
c'est extraordinaire, ouais, ça sera encore dans quelques générations, on les écoutera toujours. Oui,
hein. Les jeunes reviennent toujours aux anciens pots.
Aux anciens trucs, bah, c'est ce qu'il y avait de mieux sans doute. Hein,
exact. Hein.
Écoute, alors tu as aussi connu, tu m'avais parlé du Baron Bic dans ton, oui. Quand je suis allé te voir là.
Oui, donc le Baron Bic, donc, je me suis occupé du Baron Bic, donc j'étais son maître d'hôtel avec particulier. Je m'occupais exactement de son golf à Saint-Laurent-Nouan, c'est entre Blois et Beaugency.
D'accord.
Et donc c'était un golf totalement privé. Qui a été,
C'était
son jouet, tout à fait. C'était son jouet où il avait un départ spécialement étudié à son handicap, hein, vu que c'est classé par handicap le golf. Et il y avait un départ jaune et noir, c'était le départ du... du Baron Bic. Voilà, c'était le sien, privé.
Et,
voilà.
Et donc, tu as joué avec lui, non ?
Avec lui, non, pas au début, parce que j'étais quand même très, très mauvais. C'était pour but, surtout, d'accueillir les clients, ne jamais laisser jouer les clients seuls. Donc, des fois, on pouvait jouer avec des clients aussi. Hein, donc, avec une règle, toujours perdre. C'est toujours classique. Et surtout, après, on était surtout là pour les chercher, soit à la gare, soit les balader. Donc, grâce à ça, on avait... Des petites voitures sympas, vu que...
T'avais quoi comme voiture?
C'est quand même un monsieur qui était fervent de la marque un peu connue, Rolls et Bentley. C'était vraiment ses voitures et tout. Et donc, on avait une petite voiture, une petite Rolls de fonction.
Wow. Hein,
c'était sympathique.
Et tu la conduisais?
De temps en temps.
Hein, ah ouais.
Mais c'était juste pas longtemps. Hein, c'était juste pour aller à la gare, pour aller chercher les clients.
Pour chercher les nobles.
Comme ça.
Ah ouais.
Et puis d'ailleurs, elle est à Strasbourg, hein, cette voiture. Je l'ai retrouvée grâce à un certain Fabrice Reithofer, qui est le président des voitures anciennes, justement. C'est sa voiture, il est venu me la montrer dernièrement, et c'était assez rigolo de voir cette voiture-là.
Et tu lui as dit que tu la conduisais déjà avec le Baron Bic.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, après, sinon, en vraie voiture hoc de fonction sur le golf, j'avais une Rolls électrique amener les clients, justement, du parking à l'hôtel.
Wow. Hein,
c'était sympathique, ouais.
T'as passé des moments extraordinaires. Et comment il était, le Baron Bic?
Ah, c'est un patriarche, un grand patriarche. C'est un monsieur qui recevait beaucoup, mais par contre qui ne sortait jamais. Il faut savoir qu'il a refusé toutes les invitations dans toutes les manifestations. C'est rare qu'il sortait quoi que ce soit. C'était un monsieur qui vivait assez caché, entre parenthèses.
Ah, ouais. Et alors, Bic, c'est comme les stylos Bic ?
C'est tout à fait. C'est la maison Bic. C'est un... Je ne peux pas faire tout le topo, mais...
Mais qu'est-ce qu'il a... Il a fait une fortune avec quoi? Pas avec les stylos, j'imagine.
Si, c'est avec le stylo Bic. Donc,
ah bon
c'est, alors, ça s'appelle la mine Bic, exactement. C'est-à-dire que la mine Bic, c'est un Argentin qui est exactement normalement qui l'aurait créé, hein, dans les années 30. Et c'est lui qui avait eu l'argent pour le mettre au point, pour mettre cette mine Bic au point et pour pas qu'elle continue à couler.
Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est des jetables, en fait. C'est un truc bas de gamme.
Et... C'était bas de gamme. Et... C'était le but. Autrefois, on jetait facilement.
Ouais, ouais.
Et voilà, il a réussi à la mettre au point. Et ça a fait
ça a inondé le monde.
Ah,
et encore aujourd'hui, hein, tout le monde a des stylos
Bic. Maintenant, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il a inondé le monde. Il avait une autre vision. Et bon, il faut savoir qu'il avait quand même plus de société française. À cette époque-là, parle de ça des années 87-88, donc il avait tout ce qui était Guy Laroche, les bateaux Jeannot.
Tout ça c'était à lui.
Tout ça c'était à lui. Éminence, Dim aussi. Ça lui appartenait au actionnaire principal. Ouais.
C'était incroyable ça. C'est le mec qui a le sens du commerce,
le
quoi,
sens du
business.
Commerce, tout à fait. Le sens du commerce. Et puis bon, après, sur le golf, on le voyait arriver le vendredi, aux environs de 15-16 heures. On demandait une audience, donc de 16h à 17h, c'était audience pour voir s'il y avait des problèmes sur le golf. Et à partir de 17h, il fallait demander pour la semaine d'après.
Alors j'ai aussi connu l'architecte, cet architecte qui lui a fait qui lui a dessiné le golf.
Oui, c'est un Américain, c'est Jim Shirley.
Un Californien.
Oui, tout à fait, qui était en base justement sur le golf des Bordes. Et qui était vraiment monsieur qui est à la pointe et tout. Son frangin était John,
un grand joueur aussi.
Était le 10e joueur mondial qui nous a appris. Enfin, j'ai eu la chance d'apprendre avec lui. Ou lui, c'était plus des mains qu'il avait, mais c'était cornes. Puis que c'était vraiment
très. Et je me souviens, il y a une trentaine d'années ou même plus, on avait fait un reportage pour la télévision ici en Alsace. Et ce Jim, il était venu au Kempfhof. C'était encore un terrain vague, et il pleuviotait même. Et il avait grand morceau de bois en main, comme ça, sur lequel il dessinait avec une feuille canson, et il dessinait avec de l'aquarelle. Il dessinait le futur golf, quoi.
Tout à fait, oui.
Et c'est exactement ça qu'il avait dessiné.
Les gens du Kempfhof sont venus pratiquement pendant un an et demi, le site, justement, pour faire à peu près comme les bornes, hein, beaucoup d'eau.
C'était incroyable ce qu'il avait fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est un des golfs les plus réputés.
Les plus réputés en Europe.
Ouais. Un truc cher où tous les Suisses... quand tu y vas là-bas, tu vois toutes les bannies de grosses voitures. Parle-moi, aujourd'hui, je sais que tu es sommelier. Comment tu deviens sommelier? Qu'est-ce qu'il faut avoir de particulier pour reconnaître les goûts, les différents vins, les terroirs, savoir qu'il y a tel et tel truc dans le vignoble? Comment tu as appris tout ça?
Alors comme j'étais souvent dans la restauration pure et tout, j'ai bifurqué exactement dans les années 89. Quand je suis venu travailler pour la première fois en Alsace, parce que c'est la première fois que je travaille en Alsace, au restaurant de la Poste à la Vanzedo.
Oui, qui était étoilé aussi, je crois.
Qui était à ce moment-là, il n'était pas encore étoilé.
C'est Jérôme Dole, je crois.
J'étais Jérôme
Dole,
oui, qui était à.
Un gars qui a du caractère. Hein.
Un peu de caractère.
Salut Jérôme.
Et bon, il fallait un peu de ça.
Mais... Bah oui, sans doute. Et donc là-bas, tu as bossé avec lui.
Alors j'ai bossé avec lui, et puis justement, il n'y avait pas de sommelier vraiment en poste. Tout le monde faisait un peu tout. On faisait du vin, on vendait du vin. Et donc à ce moment-là, j'ai fait vraiment. Je m'ai complètement transformé sur la sommellerie pour justement lui lancer, refaire la cave et surtout le sommelier pour le restaurant, pour essayer d'aller chercher justement cette étoile recherchée.
Donc tu as contribué à qu'il ait une étoile Michelin.
Moi j'ai quitté le navire après deux ans et demi de poste, j'ai quitté le navire et ça a continué, il l'a eu au bout de 4-5 ans je crois.
Ah ouais. Et tu pouvais pas rester plus longtemps c'était trop bien, tu partais, quoi. On va pas tout raconter. On sait que Jérôme est un homme qui a du caractère, c'est ce qu'il veut.
Oui.
Hein.
Oui, oui. Ça pourrait avoir des représailles.
C'est pas grave, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce que je voulais te demander aussi, c'est après, quand tu apprends le vin, il y a souvent des conférences ou des gens devant des gens qui... qui parle de d'adjectifs, le vin, il est comme ça, il est gouléant, ils sont le poisson, ou je sais pas quoi, ou ils sont la framboise.
Donc, comme j'ai eu la chance donc, de pouvoir prendre carrément la semainerie, de ne m'occuper que du vin, justement, à la poste, je me suis un peu formé, j'ai eu la chance de faire quand même des concours du meilleur sommelier de France en 90, après un an et demi, donc, où j'étais demi-finaliste.
Ah, c'est bien ça.
Voilà, des choses comme ça, mais après je continue à me former, je faisais quand même beaucoup de sorties et de réunions, parce que le vin, il faut goûter, il n'y a pas de secret, il faut goûter, il faut apprendre, c'est vrai, les terrains, il faut apprendre la base, mais le reste, il faut déguster.
C'est quoi ton vin préféré? Quel est le quand tu invites des amis, tu leur fais plaisir avec quoi?
Ah, ça dépend.
Un Pétrus.
Ça dépend les amis.
Ah oui. Ah oui, on a des bons amis ou des mauvais amis. Ouais, je comprends. Ouais.
Ah non, moi je suis assez branché pour. En ce moment, c'est plus le côté Languedoc, les vins un peu puissants, les vins un peu jeunes. Voilà, c'est un peu comme ça.
Les pays Qatar, tu veux dire?
Voilà, Qatar, ouais. Oui, mais les vins assez puissants.
Corsé.
De Morvène, Grenache, ouais, ça c'est bon.
Ouais.
Mais après, lors d'une dégustation, pour l'instant, le meilleur que j'ai trouvé, c'était un Chobol Musigny 64, parce que c'est ce que j'attendais du vin. Donc maintenant, on va toujours, quand on goûte le grand vin, on essaye toujours à trouver cette référence-là, entre parenthèses.
Mmh.
Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Mais sinon, après, au niveau de ces réunions qui existaient, il y a encore une autre anecdote qui peut être citée.
Ah, vas-y, croustillante, ça j'apprécie.
Ça peut être croustillant. Ouais. Donc, il y a des personnes qui ont des petits poulains, qui s'entraînent pour les championnats de France et trucs comme ça. Donc, ce jour-là, je faisais partie du public. On était quand même entre 150 et 200 personnes du côté public. Et puis la personne de ce jeune donc devait nous commenter le vin devant tout le monde, et puis bien ça, le fruit rouge, tout ça était très bien.
Un peu de chichi, quoi. Non,
ben le cinéma habituel, il faut quand même montrer un peu de prestance. Ensuite, ça commence à sentir le cuir. Bon, jusqu'à là, on était à peu près tous d'accord. Et ça continue toujours dans son trip, et puis il nous fait « Oui, mais ça sent aussi le collier du chien mouillé. » Ah, j'ai pas pu m'en empêcher, parce que je réponds un peu du tac au tac, j'ai demandé la main. « Ah oui, monsieur, qu'est-ce que vous comprenez pas, machin comme ça, je veux juste savoir la race du chien. »
Et c'était quoi, un teckel?
Il a jamais su répondre, il est devenu tout rouge.
Ah ben pour lui, vin rouge, c'est pas mal, hein, d'avoir un visage tout rouge. Ouais. Bah écoute, on va se reposer un peu les oreilles avec, tu aimes bien Scorpion, je crois. Hein.
Tout à fait,
la musique un peu, les rockers, là. On va écouter, nous mettre une musique un peu doucette, là. Vas-y voir, notre ami Thomas.
Time, it needs time to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can bring.
C'est un morceau assez cool, hein, de Scorpion.
Ah oui, parce c'est un de mes préférés, ça.
Tu aimes bien ce groupe?
Oui, Scorpion, ah. Oui, je crois que je les ai vus une quinzaine de fois en concert, donc oui.
Ouais, bah, ils étaient même à Strasbourg, hein,
je me souviens. Autrefois, c'était la SIG, maintenant c'était le Wacken.
Le Wacken, hein, ouais, je me souviens, oui. Même, je les avais vus aussi. Alors, maintenant, on va parler de ta vraie passion, parce que le vin, c'est ton métier. La bonne bouffe, tout ça. Maintenant, tu as une passion, c'est la moto.
La
Harley Davidson, qui est toujours garée devant ton échoppe là, de caviste chez Nicolas, on peut le dire. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est là-bas
que
tu bosses.
Ça permet de faire les livraisons sans attraper de PV aussi. Donc.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Harley Davidson?
Bon, c'est un mythe. Tout simplement, c'est un mythe. On est après de regrouper souvent certaines personnes avec soit par la concession, ça s'appelle le HOG. Nous, on est un petit groupe. On s'appelle donc le Iron Bullet.
Ah oui, hein,
c'est donc
d'accord.
C'est une traduction à peu près machin des chiens fous, quoi. On a une dizaine.
Ouais.
On a notre siège à Soufflet-Weyersheim, à Custom Paradise.
Et là, tu étais récemment en Écosse?
Ah,
combien de kilomètres là pour y aller?
Ah, pour y aller, on y a fait 700, c'est-à-dire qu'on est parti en moto de Strasbourg, on est passé par Amsterdam, et wow. puis après on a fait le tour de l'Écosse. Pour la semaine, on nous a fait à peu près 4000 km.
Ouais. Et le fessier, qu'est-ce qu'il dit ?
Les 400 premiers, c'est un peu dur, ça tanne, et puis après ça va.
Bah, tu peux pas mettre des shorts comme les cyclistes, non ? Moi, aux fesses.
Ah, c'est pas des filles quand même. Hein.
Donc, c'est beau l'Écosse, non ?
C'est très très beau, c'est vraiment très enchanteur, c'est complètement différent du nord, du sud, c'est complètement ouais. Ça change complètement.
C'est des paysages.
Les ouais. gens sont superbes, accueillants, c'est vraiment très très bien quoi.
Ouais. Et alors comment c'est quand tu es sur la moto comme ça ? Est-ce que tu découvres les paysages différemment qu'en
oui,
voiture ?
Oui, ben on redécouvre quand même assez doucement. On découvre, on prend le temps tout simplement. Pour l'Écosse, on a fait pour vraiment les puristes, ça fait rire beaucoup de monde, mais c'est pas grave. On avait une moyenne de 40 à 50 km/h.
Ah oui, c'est cool.
C'était pour découvrir, ouais, visite. Ouais. Voilà, on prend le temps. Ouais. On n'est pas là pour faire de.
Et alors, en ce moment, il y a un petit problème quand même avec les motards. Les motards se rebiffent un petit peu parce qu'on leur demande de faire un contrôle technique.
Le contrôle technique, oui, ça, c'est un petit racket organisé, tout simplement. Quoi.
C'est pour faire du fric. C'est pour. Ouais.
Parce que nos motos, à nous, on est entretenus, c'est quand même la sécurité. On peut pas.
C'est pas une épave, une moto. Ouais.
On peut pas s'amuser. C'est plus pour tout ce qui est voiturette, toutes les mobilettes, tout ça. Oui, ça c'est un peu compliqué.
Donc on peut pas dire que la Harley Davidson c'est une mobilette.
Ah, il y a 475 kilos. Hein, donc,
wow, quand même. Ouais.
On la relève pas tout seul. Hein.
Ouais, ok. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu chez nous, chez Radio Jutaïka. On a eu beaucoup de plaisir à t'entendre.
Merci.
L'émission se termine déjà. Tu vois, ça va relativement vite, une demi-heure.
Hein. Ah, ça va très vite.
C'est quoi aujourd'hui que tu vas faire quoi cet après-midi ? Tu retournes chez toi ?
Oui, bon. Je vais retourner essayer de vendre un peu de vin quand même. Ouais. Mais voilà.
Ok, bah merci Noël d'être venu.
Bah, merci encore pour l'invitation.
Bah, je t'en prie.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher.